Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins.
Hey, you know what?
Diffusés tous les jours, de 10h à 11h, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine avec courage par Mydia Portis-Guérin, avec Valérie Lavalard à la technique et préparé par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, François Salmeron et Adèle Van Rett. Adèle, qui tout à l'heure, à 10h50, parlera de la mort des philosophes, rien de moins, avec le philosophe anglais mortel, Simon Crichley, dont le dernier livre, disponible chez François Bourin, intitulé « Les philosophes meurent aussi », est une promenade dont la profondeur est à peine voilée par le goût des anecdotes. Suite et suite pour nous ce jeudi d'une semaine autour de Spinoza dans les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine où, à la différence des nombreuses semaines et des innombrables émissions que les chemins ont déjà consacrées au prince de la philosophie, nous ne parlons pas directement de son chef-d'œuvre, l'éthique, mais des autres ouvrages magnifiques et souvent inachevés de Spinoza. Après avoir évoqué sa correspondance hier en compagnie de Maxime Rovert, le traité théologico-politique avec Ariel Suami et le traité de la réforme de l'entendement ou de l'amendement de l'intellect avec Pascal Sévrac, avant de clore demain ce parcours en compagnie de Joël Gano et Aurélie Morin, Joël Gano qui a notamment traduit le court traité de Spinoza, c'est aujourd'hui du traité politique qu'il sera question en compagnie de Julie Henry.
Cher ami, j'ai reçu ta lettre hier avec plaisir. Je te remercie de tout mon cœur pour les attentions si généreuses que tu as pour moi. Je ne laisserai pas passer cette occasion si je n'étais pas occupé à quelque chose que je juge plus utile et qui te plaira beaucoup, je crois. Je compose un traité politique que j'ai commencé il y a quelque temps sur ton conseil. 6 chapitres de ce traité sont déjà terminés. Le premier contient une sorte d'introduction à l'ouvrage. Le second traite du droit naturel, le troisième du droit du souverain suprême. Le quatrième examine quelles sont les questions politiques qui dépendent du gouvernement du souverain suprême. Le cinquième, quel est le bien le plus haut et le plus grand qu'une société puisse viser. Le sixième, comment doit être institué un gouvernement monarchique pour ne pas dégénérer en tyrannie. À présent, je m'occupe du 7e chapitre où je démontre de manière méthodique tous les éléments des 6 chapitres précédents concernant la monarchie bien ordonnée. Je passerai ensuite au gouvernement aristocratique et populaire et enfin aux lois et aux autres questions particulières concernant la politique. Sur ce, porte-toi bien.
Come gather round people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing.
Bonjour Julie Henry. Bonjour, c'est toujours un bonheur de vous accueillir pour parler de Spinoza, et en particulier aujourd'hui du traité politique, le dernier livre de Spinoza, dont Spinoza raconte la rédaction dans la dernière lettre de sa correspondance, la lettre 84, que, j'allais dire Bob Dylan, que Georges Clès vient de nous interpréter. Et effectivement, je pensais à Bob Dylan et à cette chanson « Times, they're changing ». Les temps ont changé. Pour Spinoza, d'abord, c'est les deux dernières années de sa vie. Cet homme est malade, cet homme est mourant. Il éprouve pourtant le besoin de rédiger un traité politique qui se distingue du traité théologico-politique qu'il a écrit quelques années auparavant, pas longtemps d'ailleurs. Et entre les deux, il y a eu des événements tragiques qui ont peut-être sensiblement modifié sa perception de la politique et du politique, Julie Henry.
Oui, le traité politique, c'est une œuvre assez particulière du fait de son contexte de rédaction. En effet, vous venez de le dire, à la fin de la vie de Spinoza, et aussi après la révolution orangiste en Hollande, et surtout après l'assassinat des frères De Witt, assassinat qui a beaucoup marqué Spinoza, qui lui a beaucoup posé question, en fait, notamment...
Qu'il a désolé, d'ailleurs.
Qu'il a désolé, bien sûr, et aussi qui l'a marqué du fait de la violence de la dite multitude, la violence dont elle a fait preuve à l'égard des frères de Witt.
Vous dites la dite multitude parce qu'il en parlait déjà dans le traité théologico-politique, dont le propos était de savoir que faire de la multitude, justement.
Oui, de savoir que faire, mais le traité théologico-politique s'achève également sur l'idée que la fin de l'État, c'est la liberté. Donc ça, c'est un des grands problèmes auxquels va se confronter Spinoza dans le traité politique, c'est-à-dire comment maintenir à la fois la forme et la stabilité du corps politique et comment continuer aussi de viser la liberté. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que souvent, on se représente le traité politique comme quelque chose qui vise simplement la paix et la sécurité. Or, dès le sous-titre du traité politique, Spinoza se demande comment maintenir inviolée la paix et la liberté des citoyens. Et il parle également d'éthique dès le premier paragraphe. Donc la grande question, ce sera comment maintenir ensemble politique et éthique, paix et liberté.
Alors on va entendre, justement, Julien Henry, puisque vous en parlez, le premier paragraphe en question, qui donc inaugure le traité politique, chapitre 1, dans lequel Spinoza cite, sans le citer, sans le nommer, mais cite ouvertement celui qui l'a beaucoup inspiré en matière politique, c'est-à-dire Machiavel. Écoutez, c'est Georges Clès, notre Bob Dylan, qui le lit.
Les philosophes conçoivent les passions qui nous tourmentent comme des vices dans lesquels les hommes tombent par leur propre faute. C'est pourquoi ils ont coutume d'en rire, de les déplorer, de les réprimander et même de les dénoncer au nom de Dieu quand ils veulent paraître plus pieux que les autres. Ils croient ainsi accomplir une œuvre agréable à Dieu et atteindre le sommet de la sagesse lorsqu'ils ont appris à louer de diverses manières une nature humaine qui n'existe nulle part et à flétrir par leur discours celle qui existe réellement. Ils conçoivent les hommes, en effet, non comme ils sont, mais comme ils voudraient qu'ils fussent. La conséquence en est que, pour la plupart, au lieu d'une éthique, ils ont écrit une satire et n'ont jamais conçu un système politique qui puisse être appliqué pratiquement. Le système politique qu'ils conçoivent doit être tenu pour une chimère ou pour un système qu'on pourrait établir dans un pays d'utopie ou dans l'âge d'or des poètes où l'on n'en a pas du tout besoin. Puisque donc, de toutes les sciences qui donnent lieu à des applications, c'est la science politique qui passe pour s'accorder le moins avec la pratique, on juge que pour gouverner un État, personne n'est moins qualifié que les théoriciens ou les philosophes.
Julien Henry, dans ce texte, Spinoza cite explicitement Machiavel, ça dépend des traductions, mais ils conçoivent les hommes en effet non comme ils sont, mais comme ils voudraient qu'ils fussent. C'est le propre de ceux qui font de la morale et qui, au lieu d'une éthique, écrivent des satires en expliquant ce qui devrait être et donc en déplorant ce qui n'est pas. Et Spinoza, cette fois-ci, fidèle d'ailleurs à lui-même, s'occupe de ce qui existe, de ce qui est, de la compréhension des mécanismes de ce qui est, plutôt que de l'idée qu'on pourrait se faire d'une société idéale ou idéale, justement.
Oui, c'est une des choses vers lesquelles Spinoza ne souhaite pas aller, c'est-à-dire l'idée de construire, justement, comme vous venez de dire, une cité idéale, qu'on tenterait ensuite d'appliquer, ce qui ne pourrait se faire que par la violence, et ce qui en plus serait vain. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Et en effet, dès le début de ce texte, dès le début du traité politique, Spinoza insiste beaucoup sur le fait qu'on doit s'appuyer sur la nature humaine. C'est la nature humaine qui va nous montrer la voie, en fait, pour comprendre comment on peut maintenir la forme d'un corps politique, comment on peut maintenir sa stabilité.
Quelle différence de ce point de vue avec le traité théologico-politique, qui commence là aussi par l'inconstance des hommes soumis comme des girouettes à tous les vents, à toutes les craintes, à tous les espoirs?
Alors oui, c'est vrai que c'est le principe de la philosophie spinoziste, cette idée que les hommes sont passionnés plus que rationnels. Simplement, le traité politique prend une tournure peut-être encore plus rationnelle, si je puis dire. C'est-à-dire que ce ne va pas être une longue exégèse, ce ne va pas être une tentative même de convaincre qui que ce soit. Mais il y a des côtés qui ressemblent un peu à l'éthique, même s'il n'y a pas la succession, proposition, démonstration, etc. C'est-à-dire que Spinoza va dire « tout ce que je propose, tout ce dont je parle d'un point de vue politique s'appuie sur des conditions absolument rationnelles, c'est-à-dire que je regarde les hommes tels qu'ils sont et j'en tire des preuves ». Il utilise un mot très fort, il parle de preuves. J'en tire des preuves pour estimer plus ou moins tel ou tel gouvernement. Non pas pour imaginer un gouvernement idéal, mais pour comprendre en fait, par exemple d'un point de vue historique, la chute d'un empire, il le fera aussi, ou alors pour tirer des leçons historiques des chutes éventuelles des différents empires afin de proposer éventuellement des réformes des États.
Mais dans l'éthique, d'ailleurs, que vous mentionnez, dans les parties 3 et 4, fond de l'éthique, Spinoza dessine deux façons de construire la cité. Et une modalité qui reposerait finalement sur la sagesse humaine, qui lui semble utopique en termes collectifs. C'est toute la grandeur de l'éthique, d'ailleurs, hein, c'est d'inviter son lecteur individuel à faire pour lui le cheminement qui conduit à la sagesse, mais tout en expliquant dans quelle mesure un tel cheminement est utopique à l'échelle collective, et un deuxième chemin qui lui relèverait davantage de ce qu'on peut appeler, même si c'est pas forcément le terme qui convient, mais plus cynique en tout cas, un cheminement qui reposerait davantage sur les hommes tels qu'ils sont et non tels qu'ils devraient être. C'est comme si l'éthique avait tracé les deux pistes possibles de construction de la cité, et comme si en l'occurrence Spinoza ne se concentrait plus que sur une seule, c'est-à-dire le réalisme qui impose de regarder les hommes tels qu'ils sont, c'est-à-dire avec leur bassesse.
Alors c'est vrai que c'est tout à fait l'image qu'on a en fait à la lecture du traité politique. C'est surtout, je dirais plus exactement, l'image qu'on s'en fait. On a l'impression que c'est un texte assez cynique, je pense qu'on peut dire le mot, tout à fait réaliste, avec des conditions très pragmatiques. Mais en fait, il me semble que cette œuvre est plus complexe qu'il n'y paraît. Comme je disais tout à l'heure, dès le début du texte, il parle d'éthique. Non pas pour la critiquer, mais pour l'opposer à la satire que font les philosophes. Et je pense que le lien entre politique et éthique est assez complexe dans cette œuvre. D'un côté, ce sont des domaines distincts et la politique ne doit pas directement viser une éthique parce que pour cela, elle ne pourrait faire que contraindre les esprits et ce serait contre-productif, ça irait à l'encontre des croyances des hommes. Mais d'un autre côté, une politique bien pensée rend possible un devenir éthique, c'est-à-dire ça ne le suscite pas. Ça ne le cause pas directement, simplement une stabilité politique est nécessaire pour un développement personnel de la vertu, vous l'avez dit.
C'est-à-dire... En d'autres termes, ça n'est pas de l'homme que dépend la qualité d'un régime, mais c'est de la façon dont le régime est organisé que dépendent les attitudes humaines.
Tout à fait, alors ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire que pour Spinoza, tous les hommes sont passionnés, ce qui signifie les gouverner comme les gouvernants. Il insiste énormément sur ce point dans le traité politique. Donc on ne peut pas s'en remettre au gouvernant, on ne peut pas attendre de lui plus de vertu qu'on ne pourrait attendre de soi-même et plus de constance qu'on ne pourrait attendre de soi-même. Et donc il faut faire en sorte que les lois et les institutions soient telles que les gouvernants agissent par raison ou par passion, elles permettent la stabilité du corps politique.
Voici à titre d'exemple et à titre de preuve de la passion des hommes, justement, et de la difficulté d'être homme, le récit qu'Alexandre Dumas, dans La Tulipe Noire, propose de l'assassinat des frères de Vide, qui valut à Spinoza d'écrire ensuite, de vouloir placarder sur les murs de la ville l'insulte suprême à ses yeux, « Ultimi barbarorum, vous êtes les derniers des barbares ».
L'officier, parti avec une rapidité qui témoignait bien moins de son obéissance que de la joie de n'assister point au hideux assassinat du second des frères. Il n'avait point fermé la porte de la chambre que Jean, qui par un effort suprême avait gagné le perron d'une maison située en face de celle où était caché son élève, chancela sous les secousses qu'on lui imprimait de 10 côtés à la fois en disant « Mon frère, où est mon frère ?» Un de ces furieux lui jeta bas son chapeau d'un coup de poing. Un autre lui montra le sang qui teignait ses mains. Celui-là venait d'éventrer Corneille, et il accourait pour ne point perdre l'occasion d'en faire autant au grand pensionnaire, tandis que l'on traînait au gibet le cadavre de celui qui était déjà mort. Jean poussa un gémissement lamentable et mit une de ses mains sur ses yeux. « Ah, tu fermes les yeux, » dit un des soldats de la garde bourgeoise. « Eh bien, je vais te les crever, moi !» Il lui poussa dans le visage un coup de pique sous lequel le sang jaillit. « Mon frère !» cria De Witt, essayant de voir ce qu'était devenu Corneille à travers le flot de sang qui l'aveuglait. « Mon frère !»« Va le rejoindre !» hurla un autre assassin en lui appliquant son mousquet sur la tempe et en lâchant la détente. Mais le coup ne partit point. Alors, le meurtrier retourna son arme et, la prenant à deux mains par le canon, il assomma Jean De Witt d'un coup de crosse. Jean de Witte chancela et tomba à ses pieds. Mais aussitôt se relevant par un suprême effort, « Mon frère » cria-t-il d'une voix tellement lamentable que le jeune homme tira le contrevent sur lui. D'ailleurs, il restait peu de choses à voir car un troisième assassin lui lâcha à bout portant un coup de pistolet qui partit cette fois et lui fit sauter le crâne. Jean de Witte tomba pour ne plus se relever. Alors, chacun des misérables, enhardi par cette chute, voulut décharger son âme sur le cadavre. Chacun voulut donner un coup de masse, d'épée ou de couteau. Chacun voulut tirer sa goutte de sang, arracher son lambeau d'habit. Puis, quand ils furent tous bien meurtris, bien déchirés, bien dépouillés, la populace les traîna nus et sanglants à un gibet improvisé où des bourreaux amateurs les suspendirent par les pieds.
Julien Henry est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Ce jeudi, dans une semaine sur Spinoza, c'est du traité politique que nous parlons aujourd'hui. Julien Henry, quand on vient d'entendre, lu par Georges Clès, le récit de l'assassinat des frères de Witte, raconté par Alexandre Dumas dans La Tulipe Noire, il y a quelque chose d'odieux à entendre après coup, et c'est la raison pour laquelle on le fait entendre d'ailleurs, la chanson de John Lennon et l'espèce d'irénisme qu'il apporte. Tout le traité politique repose sur des considérations qui sont aux antipodes des motifs pour lesquels, par exemple, un esprit aussi généreux que celui de John Lennon a composé cette chanson sublime.
Oui, alors c'est vrai que c'est... Le contexte en fait, de rédaction du traité politique est fondé sur ce sentiment vraiment d'indignation qu'a ressenti Spinoza lors de l'assassinat des frères de Witte. En même temps, il me semble que le traité politique n'est pas aussi pessimiste ou cynique qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire que, enfin, il faut reconnaître que quand il parle du droit de résistance, il critique, c'est l'idée traditionnelle, on ne peut pas en fait entériner l'idée qu'on puisse aller contre la loi. Simplement, il dit autre chose qui est assez intéressant. Il dit « Qui est en mesure de juger ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour le salut commun ?» Mais ça, le problème, c'est que c'est à la fois une remarque à l'encontre de la multitude et à l'encontre du souverain. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que le souverain, finalement, n'est pas plus, comme il est également un homme, il n'est pas plus apte à juger de ce qui est bon pour la multitude. Et c'est pour ça que des paragraphes et des paragraphes entiers du traité politique sont consacrés à la mise en place de palliatifs, si on peut dire, c'est-à-dire notamment, par exemple, de formations d'assemblées qui pourront accompagner le souverain dans ses décisions. Et même la monarchie, même le monarque doit être entouré de conseillers en ce sens.
Oui, parce que le réalisme politique de Spinoza n'implique pas que le régime s'abaisse aux passions et aux vices. La société est aussi fondée en raison, elle demeure fondée en raison chez Spinoza, en tant que connaissance adéquate des choses, et elle vise la paix et la concorde. On va en parler ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que la condition de la paix et de la concorde, ce qui n'est pas... Enfin, disons que la paix n'est pas seulement la trêve, hein. Ça n'est pas seulement la cessation des hostilités, c'est aussi l'instauration de la concorde entre les individus, c'est le propos cardinal du traité politique. Cette condition, ça reste la liberté de penser. Donc un homme déçu par les hommes, en qui pourtant il avait peu d'espoir, n'en vient pas pour autant à vanter les mérites de la tyrannie, Julien Henry.
Non, absolument pas ça. C'est important de le souligner, c'est-à-dire que cette indignation, vous parliez hier de colère à propos de la correspondance, cette indignation ne va pas se transformer en sentiment de légitimité de la tyrannie. C'est-à-dire qu'il y a toujours, il s'arrête un pas avant, si je puis dire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est justement cette idée de concorde. La paix, ce n'est pas simplement l'absence de guerre, mais c'est aussi fondé sur des passions positives qui vont faire que les hommes vont trouver un certain plaisir à vivre ensemble. Et si, comme je disais tout à l'heure, la politique et l'éthique ne sont pas contraires l'une à l'autre, c'est aussi parce que la concorde, c'est le meilleur moyen d'assurer la paix en réalité. Parce que si on instaure la paix uniquement par la terreur et par la crainte, on va offenser la multitude, on va susciter une frustration en elle qui risque en fait d'être tout à fait contre-productive puisque la multitude ne fera qu'attendre le meilleur moment pour renverser le souverain. Donc l'idée, c'est d'essayer de construire une société politique sur l'espérance beaucoup plus que sur la crainte.
De sorte que si Spinoza est aux antipodes de John Lennon, il est également aux antipodes, par exemple, du seigneur Palpatine, qui, dans La Guerre des Étoiles, spéculant ou faisant croire en une rébellion interne, s'appuie sur cette rébellion interne pour bâtir un ordre policier, remplacer la République par l'Empire, au nom, justement, même, du salut de la République, comme si la réponse la plus autoritaire était la seule réponse possible aux troubles instaurés dans la République, troubles qu'il impute, évidemment, faussement, au Jedi. On est ici, on va entendre ici un passage du troisième volet de la Guerre des Étoiles dans lequel Anakin Skywalker devient Dark Vador, passe de l'autre côté et reçoit les instructions du seigneur Palpatine. Ça n'est pas George Kless qui nous le lit, mais c'est George Kless qui nous le dit. Écoutez.
Comme le conseil n'avait pas confiance en vous, mon jeune apprenti, je pense que vous êtes le seul Jedi à ne rien savoir de ce complot. Lorsque les Jedi apprendront ce qui s'est passé, ils voudront nous tuer. Ainsi que tous les sénateurs.
Je suis d'accord. Leur prochaine action sera dirigée contre le Sénat.
Dorénavant, tous les Jedi, y compris votre ami Obi-Wan Kenobi, sont des ennemis de la République.
C'est entendu, maître.
Il nous faut faire très vite. Les Jedi sont impitoyables. Si on ne les élimine pas jusqu'au dernier, ce sera la guerre civile pour l'éternité. D'abord, je veux que vous alliez les traquer dans leur temple. Nous allons les prendre par surprise.
Faites ce qu'il convient de faire, Seigneur Vador. N'hésitez pas, soyez sans pitié. C'est à cette condition que le côté obscur vous donnera le pouvoir de sauver Padmé.
Et pour les autres Jedi dispersés dans la galaxie?
Ils paieront pour leur trahison. Quand vous aurez tué tous les Jedi dans le temple, allez sur Mustafar et éliminez tout d'abord le vice-roi Gunray et les autres leaders séparatistes. Une fois de plus, les Sith imposeront leur loi à la galaxie. Et nous connaîtrons alors la paix.
Voilà ce qu'il faut donc pour connaître la paix quand la paix s'impose par la violence. La violence dont Jean Kelevitch disait d'ailleurs qu'elle était de la force faible. Ce qu'on pourrait appliquer au Sith et ce qui permettrait d'expliquer ultimement la raison pour laquelle, indépendamment du goût des happy end dans le cinéma américain, les Sith sont battus ultimement par les Jedi. En tout cas, là, ils ont gagné une bataille puisqu'on est au bord de la création de l'Empire galactique. Au nom de la paix, Julie Henry, qu'est-ce que Spinoza trouverait à dire à quelqu'un qui, constatant les désordres qui règnent dans la galaxie ou dans la cité, c'est pareil, en viendrait à instaurer un ordre résolument autoritaire, meurtrier, mais qui, sous le glacis de plomb qu'il impose aux humains, ferait régner une sorte de paix?
Bah, ce que répondrait Spinoza, et ce qu'il répond d'une certaine mesure à d'autres circonstances, c'est le fait que ce n'est pas de la paix. C'est-à-dire que la paix ne légitime pas tout, et lorsqu'on parle en fait d'une absence de guerre qui est imposée par la terreur, lorsqu'on dit que c'est simplement en imposant, enfin par la force, par la violence, qu'on empêche le peuple d'entrer en conflit, c'est simplement une vie misérable et c'est simplement de la solitude. Et ce qu'ils disent, donc d'une part, ce n'est pas une vie, il dit que ce n'est pas une vie humaine, c'est ce qu'il dit dans le chapitre 5 du traité politique. Et en plus, ce qu'il va dire une fois encore, c'est que c'est contre-productif.
C'est surtout ça l'argument de son point de vue d'ailleurs. Oui, de la même manière que la liberté de penser était le meilleur gage de la sécurité de l'État et de la continuation de l'État dans le traité théologico-politique, ici il serait tout simplement dangereux de vouloir imposer la paix par ce biais-là.
Oui, de même qu'il serait dangereux de vouloir moraliser la multitude, de même qu'il serait dangereux de vouloir aller contre ses croyances, c'est tout à fait contre-productif. Donc en fait, lorsqu'on parlait tout à l'heure d'une dimension rationnelle des principes spinozistes, cela ne va pas à l'encontre de son réalisme et de ce qu'on interprète comme un cynisme. Puisque en fait, c'est en agissant de façon plus rationnelle, et c'est pour des principes rationnels qu'on va éviter d'instaurer ce type de paix qui en fait n'en est pas une et qui se révélerait, enfin qui irait à l'encontre de l'État. Et être irrationnel pour l'État, c'est aller à sa propre ruine. Et s'imposer par ce type de violence, ça ne fait que faire appel en écho à la violence de la multitude, et donc dans ce cas, l'État va à sa propre perte. Et d'ailleurs, c'est le seul moment où Spinoza parle de péché au moment de l'État, c'est le moment où il pêche contre lui-même en allant à sa propre perte.
C'est le seul moment peut-être où Spinoza parle de péché d'ailleurs, non, Julien-Henri?
C'est le seul moment en tout cas où il admet ce terme au niveau naturel, si je puis dire. C'est-à-dire, nous, à notre niveau humain, on appelle péché des choses qui vont contre les règles que l'on aimait, ou contre ce que les prophètes disent de la volonté de Dieu ou des règles divines. Mais simplement, il en est de même d'ailleurs pour les individus. Là, on peut faire un lien entre individu et corps politique. L'individu, comme le corps politique, pêche contre eux-mêmes au niveau naturel quand ils vont à l'encontre de la conservation de leur être.
La meilleure preuve de ce que vous dites réside dans le texte qui se trouve ici, dans lequel il est question de concorde, justement, hein, c'est-à-dire d'une paix au-delà de la paix, une paix qui n'est pas seulement, qui ne réside pas seulement dans la cessation des hostilités. On a entendu tout à l'heure Georges Claes, alias Palpatine, faire l'éloge de la paix par la violence. On va ici, puisqu'il faut savoir penser contre soi-même, entendre le même Georges Claes lire du Spinoza et nous proposer exactement le contraire pour illustrer ce que vous dites, Georges.
D'une cité où les sujets, empêchés par la crainte, ne prennent pas les armes, on doit dire seulement qu'elle n'est pas en guerre, mais non qu'elle est en paix. En effet, la paix n'est pas l'absence de guerre, mais une vertu qui naît de la fermeté de l'âme, car l'obéissance est la volonté constante de faire ce qu'on doit faire selon le décret commun de la cité. Du reste, une cité dont la paix dépend de l'inertie des sujets et qu'on conduit par conséquent comme un troupeau afin de les dresser à l'esclavage, on peut l'appeler avec plus de raison solitude plutôt que cité.
Spinoza, Julien-Henri, parle de troupeau, plus exactement, maltraiter la paix, sous-estimer la paix, réduire la paix à la cessation des hostilités, c'est faire de l'homme du bétail, au fond. C'est le traiter comme du bétail. Mais il est ici important de noter ce qui distingue chez Spinoza dans son esprit l'idée de troupeau de l'idée de multitude, en laquelle on était tenté, dès le traité théologico-politique, de voir une métaphore du troupeau. Qu'est-ce que la multitude, sinon le troupeau humain versatile, dont les passions volatiles, changeantes et capricieuses sont aussi la source de tous les maux? Quelle est la différence entre la multitude et le troupeau, Julien-Henri?
Alors, la différence, c'est que la multitude, on pourrait appeler ça comme la matière du corps politique. C'est-à-dire, la puissance de l'État n'est rien d'autre que la puissance de la multitude, en réalité. Donc c'est toujours cette idée en fait d'accroissement de puissance. Ce qu'on va essayer de faire dans un corps politique, c'est de faire que les puissances n'aillent pas à l'encontre les unes des autres, mais qu'elles puissent se mutualiser, si je puis dire. Ça, c'est la multitude. C'est ce qui fait la chair du corps politique. Il n'y a pas de société sans multitude. Il n'y a pas de corps politique sans peuple. Alors, ce qui fait le troupeau, c'est justement le moment où il n'est plus traité que comme un esclave. Le moment où il n'a plus du tout part, en fait, au gouvernement. Et Spinoza utilise également le terme de bétail lorsqu'il dit « les hommes ne cessent jamais d'être hommes au point de se laisser traiter comme du bétail ». Simplement, moi je vois une ambiguïté dans cette affirmation. D'un côté, on peut lire ça comme une limite à l'égard du souverain. C'est-à-dire, si vous traitez les hommes comme du bétail, ils ne se laisseront pas faire, ils vous renverseront. Mais d'un autre côté, on peut lire ça aussi comme une exigence à l'égard des hommes. C'est-à-dire aux hommes de ne pas se laisser traiter aussi comme du bétail.
Au fond, l'idée qu'il n'y a pas de tyran sans esclave.
Mais à un moment, il utilise d'ailleurs l'expression, enfin pas l'expression, mais il parle de quelque chose qui ressemble à une servitude volontaire. C'est-à-dire qu'il est aussi du ressort des hommes de continuer à faire usage de leur jugement, même si, Spinoza le répète, ils doivent obéir au souverain, même dans les cas où ils pensent que ce n'est pas, on ne leur fait pas, on ne les fait pas agir de façon rationnelle.
Mais alors quelle est la liberté, entre guillemets, qui est laissée aux hommes ? S'il s'agit d'obéir au souverain, même quand le souverain est arbitraire, quelle liberté est laissée à l'homme ? Et puis, de façon générale, parce qu'en vérité, ce qu'implique la question, c'est la question que je vais vous poser maintenant, quel est le statut de l'état de nature, au fond, dans la constitution d'un corps politique ? L'état de nature où, finalement, chacun est appelé, selon son essence, à persévérer dans son être, à devenir ce qu'il est.
Chacun est appelé à persévérer dans son être, mais nul ne le peut. Donc sur ce point, Spinoza rejoint Hobbes, c'est-à-dire il n'y a pas d'état où il y a moins de liberté que l'état de nature. Parce que la liberté, ce n'est pas faire tout ce que l'on a envie de faire.
Sinon, c'est la liberté du renard dans le poulailler.
Voilà, exactement. Non, la liberté, c'est aussi de l'ordre de l'exigence et c'est aussi agir d'une certaine façon qui va dans le sens de sa propre nature. Or, il se trouve que les hommes trouvent quand même beaucoup d'avantages à vivre en société. Donc en fait, quand ils sont en société, ils vont aussi dans le sens de leur propre conservation. Ça, c'est quelque chose qui est important. Par contre, là où Spinoza se distingue de Hobbes, c'est que pour lui, les hommes restent avant tout hommes. On n'abandonne pas son droit naturel d'homme quand on entre en société. Simplement, le droit change d'échelle. C'est-à-dire, on va s'associer avec d'autres personnes et cela va nous donner une puissance plus importante. Ce qui veut dire que le droit de résistance, il sera au niveau des assemblées et non pas des individus.
Rappelons que le propos de Hobbes, très sommairement décrit, c'est en général ce qu'on dit de Hobbes en terminale d'ailleurs. Le propos de Hobbes est d'expliquer que l'homme à l'état de nature est un loup pour l'homme. Qu'il est mu par ces deux passions, qui ne sont pas contradictoires à l'échelle d'un individu, qui est la conservation de soi et l'accroissement de sa puissance. Des passions qui, quand on les met dans le même bain, au fond, produisent évidemment des catastrophes et des haines inexpugnables. Et c'est la raison pour laquelle, dit Hobbes, les hommes fusionnent en un contrat qui donne le jour au Léviathan, en lequel ils abjurent leur liberté au profit de leur sécurité. Et si Spinoza se distingue de Hobbes, peut-être, je veux savoir si je vous ai comprise, si Spinoza se distingue de Hobbes, c'est peut-être parce que Spinoza ne renonce tout simplement pas à la liberté dont il fait une condition de la sécurité.
Oui, il ne renonce absolument pas à la liberté. Les hommes ne renoncent pas à leur condition d'homme, ça c'est absolument impossible. Mais il va plus loin que ne pas renoncer à la liberté, c'est qu'il considère la société civile, la société politique, comme condition de la liberté. Donc ça va encore plus loin. C'est comme distinguer la vie humaine d'une vie simplement organique. La liberté, ce n'est pas la licence, c'est la possibilité de suivre la voie de la raison. Simplement, pour suivre la voie de la raison, il y a certaines conditions qui sont nécessaires, dont entre autres la stabilité du corps politique. Donc encore une fois, le corps politique ne détermine pas la liberté, il ne la cause pas directement, simplement il la rend possible.
Il ne crée pas d'obligation, mais il tient sa force des intérêts qu'il inspire.
Oui, bien sûr, du côté de la multitude comme du côté du gouvernant d'ailleurs. Parce qu'au niveau du gouvernant, Spinoza parle aussi des passions, de faire jouer une passion contre une autre, etc. Par exemple, on va essayer de contrer l'avidité du gouvernant par son besoin que la multitude lui soit attachée. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'un roi philosophe. Il ne s'agit pas en fait d'attendre du gouvernant qu'il soit rationnel, sinon, comme dit Spinoza, on rêve à l'âge d'or des poètes. Simplement, il faut faire en sorte que les institutions et la crainte aussi de la multitude fassent que le gouvernant agisse de façon qui semble rationnelle si elle ne l'est.
Je me demande s'il n'y a pas avant l'heure chez Spinoza une réponse à l'impasse dans laquelle Rousseau laisse son lecteur dans le contrat social. Plusieurs impasses, Rousseau dit que la démocratie ne convient pas à des hommes. S'il existait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement, mais un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Alors l'argument de Rousseau, c'est de dire que les hommes ne sont pas capables finalement d'abjurer leur vie privée, leur petite passion mesquine, pour se vouer continuellement à la chose publique et donc alimenter, faire vivre la liberté qu'ils pensent en termes collectifs qui doit les animer et dont le contrat social serait le garant paradoxal. Rousseau dit également qu'un législateur devrait, et c'est tout le problème, connaître toutes les passions humaines sans en éprouver aucune. Il prend, je crois, l'exemple de Lycurgue qui a donné des lois à Sparte une fois qu'il a cessé d'en être le roi. Il y a chez Spinoza, dans cette façon qu'il a de faire valoir le jeu des passions entre elles, une réponse avant l'heure à l'impasse qui ferait reposer un bon régime politique sur la vertu d'un homme ou des hommes, encore pire.
Oui, c'est une réponse avant l'heure ou même une réponse simplement au constat que ça ne marche pas. S'en remettre directement à la vertu du gouvernant, c'est quelque chose qui ne marche pas. Et c'est d'ailleurs ce que Spinoza reprend quand il cite Machiavel dans le traité politique. C'est-à-dire qu'il est entièrement d'accord avec Machiavel pour dire qu'on ne peut pas s'en remettre simplement à un seul homme et attendre lui plus qu'on ne peut attendre de soi-même. Alors simplement, il donne une petite nuance en disant que c'est l'interprétation qu'il propose de Machiavel. Peut-être finalement la visée de Machiavel était à l'autre.
Dans le même temps, Spinoza et Machiavel partagent en tout cas le refus d'être normatif. L'un et
le refus d'être normatif, et c'est aussi une considération de fait, ça c'est sûr. La deuxième chose par rapport à Rousseau, c'est aussi la question du contrat. Dans le traité politique, Spinoza abandonne l'idée de tout contrat, l'idée de tout pacte social. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure de la liberté. Établir un pacte entre nous-mêmes supposerait qu'on soit libre pour l'établir. Si on signe un contrat sans être libre, le contrat n'est pas valable. Or, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de volonté absolue. Et dans ce qu'on appelle l'état de nature, il n'y a pas de toute façon, cette liberté n'est pas possible, au sens de la capacité à suivre les voies de la raison. Donc le contrat n'est plus concevable en fait.
Mais chez Spinoza, il n'y a pas de libre arbitre. Bien sûr, il n'y a pas de libre arbitre. En tout cas, la liberté n'est pas à penser sur le modèle cartésien du libre arbitre. Bon. Mais cette défaite du libre arbitre, par exemple dans l'éthique, se vit à l'échelle individuelle. Un homme découvre en lui, notamment en lisant l'éthique, ça aide beaucoup, qu'au lieu d'agir librement ou au lieu d'être l'origine de ses actes, il est agi par les causes qu'il ignore et qui non seulement le déterminent à agir, mais qui en plus le déterminent à penser que c'est librement qu'il agit. Donc c'est à l'échelle individuelle que Spinoza, à l'échelle de son lecteur, gagné par la sagesse, que Spinoza déconstruit le libre-arbitre. Mais à l'échelle collective, Julien Henry, de la même manière qu'il faut bien condamner un homme pour les crimes qu'il commet, et qu'il ne suffit pas de dire que les crimes qu'un homme a commis sont d'abord la cause, ou sont d'abord l'effet des causes réelles qui l'ont conduit à agir comme il a fait, à l'échelle de la société, de la même manière qu'il faut l'espoir et parfois la crainte à l'échelle de la société. Est-ce qu'il ne s'agit pas malgré tout de réhabiliter l'illusion du libre arbitre chez les citoyens?
Alors je pense qu'il y a finalement une liaison, une analogie qui est faite entre l'individu et le corps politique à ce niveau. Donc de même, on ne va pas directement parler de libre arbitre au niveau du corps politique, parce que sinon la politique n'aurait même pas lieu d'être si on avait la capacité à prendre directement les bonnes décisions. Mais il rétablit la même chose au niveau collectif, c'est-à-dire qu'il dit finalement un homme seul, par exemple un monarque. Il y a des moments où il dort, des moments où il est malade, des moments où il vieillit, etc. Donc il faut plutôt être plusieurs. Un homme, quelques hommes ensemble, leurs passions vont s'affronter, ils vont être en conflit, etc. Donc en fait, il faut tenter d'augmenter progressivement le nombre dans une assemblée. Et c'est le fait de discuter ensemble, ça va un peu faire s'annuler entre elles les passions. Et là vont surgir des idées qui ne seraient pas venues toutes seules. Donc encore une fois, c'est au sein de la discussion et au sein du conflit, finalement, que vont surgir des idées qui étaient assez inattendues. Et d'ailleurs, c'est intéressant à ce niveau à propos de la démocratie. Spinoza dit, certes, il n'y a jamais autant de conflits que dans une démocratie. Certes, quand un homme est tout seul, il entre beaucoup moins en conflit avec lui-même. Simplement, il fait l'analogie avec les parents et les enfants. Il dit qu'il y a aussi beaucoup plus de conflits entre des parents et leurs enfants qu'entre les esclaves et leurs maîtres. Simplement, ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la relation parent-enfant une relation de possession et qu'il faut transformer les enfants en esclaves. De même, dans le corps politique, le conflit n'est pas quelque chose de négatif. C'est pas quelque chose qu'il faut à tout prix éviter, sinon c'est simplement une tyrannie, c'est la paix du bétail, faire simplement que les choses ne surgissent pas. Mais il faut simplement encadrer, disons plutôt, ce conflit au sein d'institutions et au sein de cadres qui permettent d'en faire surgir quelque chose d'autre.
Je demande la parole ! Tu n'as plus droit à la tribune ! Robespierre ! Je l'appelle bon corrompu, bon, oh la loi de la société.
Je me demandais, dois les assassiner. Allez, rentre.
Mais qu'en est-il, par exemple, comment Spinoza comprendrait-il, lui qui écrit au siècle d'avant, comment Spinoza comprendrait-il, Julien Henry, le fait, par exemple, que l'Assemblée du peuple décide, dans une sorte d'unanimité contagieuse, d'unanimisme contagieux, à la façon dont une foule, certes les foules chantent juste, toujours juste, mais bon, en l'occurrence, les foules parfois peuvent s'entraîner. Les foules sont parfois des foules de neige, hein, comme on parlerait d'un effet boule de neige, il y aurait un effet foule de neige, où finalement les foules grisées par la violence de quelques-uns, éduquées ou mal éduquées par la violence de ceux contre lesquels elles se retournent, les foules décident de condamner quelqu'un. En l'occurrence, Robespierre, qui certes ne l'avait pas volé, mais qui en même temps est condamné de façon unanime et au milieu des vociférations de la foule. Qu'est-ce que Spinoza dirait d'une assemblée qui se conduit de cette manière ?
Alors, je pense qu'on peut imaginer ce qu'il dirait, ne serait-ce que c'est parce qu'il y a un lien qui se fait avec l'assassinat des frères de Witt, enfin ce quasi-lynchage.
Les frères de Witt étaient des libéraux sympathiques et que Robespierre a lui-même coupé beaucoup de têtes, mais ça c'est une autre histoire.
Oui. Mais simplement, je pense que ce qu'il dirait simplement, c'est que justement cette multitude n'était pas constituée en assemblée. C'est-à-dire qu'il manquait, en fait, c'est pour ça que Spinoza insiste énormément sur les institutions, sur le cadre, sur ce qui permet de donner une certaine structure, en fait, aux discussions. Lorsqu'il dit justement que les jugements ne sont valables que s'ils sont émis dans un certain cadre, selon un certain règlement, par des juges indépendants, au vote secret, etc., au vote secret. C'est intéressant qu'il ait pensé à ça. Parce que ça signifie, en fait, qu'on ne doit pas pouvoir leur en tenir rigueur. Donc, il y a une certaine indépendance dans leur fonction. Ils ne doivent pas, en fait, avoir à rendre compte à titre personnel des décisions qui sont prises à titre collectif. Donc, là, je pense qu'on rejoint cette image, en fait, de la foule, de la multitude, qui manque de règles, qui manque de cadres, et donc qui se laisse aller à une passion, mais il n'y a pas eu la discussion, il n'y a pas eu le conflit au niveau des mots, et donc peut-être il n'y a pas eu les conditions nécessaires pour qu'une décision soit prise.
À partir de là, deux questions. Est-ce que Spinoza n'est pas l'un des premiers à penser les dangers de la transparence en démocratie, les risques, les périls inhérents à la notion de transparence qui pourtant est nécessaire en démocratie, car le régime de l'opacité est également tyrannique. Néanmoins, il s'agirait de savoir dans quelle mesure la démocratie ne dépérit pas de la transparence dont elle s'est d'abord servie pour abolir ou abjurer les tyrannies. Ça, c'est la première question. Et deuxième question, à quelles conditions existe-t-il chez Spinoza un droit de résistance, puisqu'après tout, il en parle?
Alors, au niveau de la transparence, je pense que la réponse est double. D'un côté, en effet, lorsqu'il y a des décisions qui engagent des personnes, il faut que ces personnes soient protégées, mais à titre individuel. C'est-à-dire qu'il y a transparence sur la décision prise par l'Assemblée, mais par contre, il n'y a pas transparence sur qui a pris cette décision. Et encore une fois, c'est une distinction entre la personne privée et la fonction qu'elle occupe. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il dit quand même quelque chose d'intéressant au niveau du peuple et de la foule. Je crois qu'il emploie ce terme à ce moment-là. Il dit qu'on lui reproche toujours de ne pas savoir juger des choses, mais en même temps, on ne lui dit rien. Donc on ne peut pas demander à la foule d'être en mesure de juger de façon rationnelle de la politique si elle n'a pas les éléments nécessaires pour le faire, et en même temps, si elle était capable de le faire, dans ce cas-là, elle gouvernerait. Donc il y a un paradoxe à lui reprocher, en fait, cette incompréhension de la chose politique alors qu'on ne lui donne pas les moyens de la comprendre.
Mais est-ce qu'à cet égard, il n'y a pas un peu de paternalisme chez Spinoza, de ce point de vue ?
Paternalisme, je ne sais pas, parce qu'en fait, paternalisme, ça enfermerait la foule dans un rôle d'enfant. Et justement, dans le traité théologico-politique, il dit que ce qui a provoqué la chute de l'État hébreu, c'est que le peuple était uniquement considéré comme un enfant, et après avoir été enfant, on devient adolescent, et donc on se rebelle. Donc l'obéissance simplement ne marche pas. Peut-être qu'il y aurait l'autre côté, alors Spinoza ne va pas jusque-là, mais on pourrait peut-être en tirer l'idée que si on éclairait la foule, elle serait peut-être plus en mesure de juger les choses. Donc il y a peut-être plus un côté...
Despotisme éclairé ou éclairant?
despotisme éclairé ou éclairant, peut-être dans la mesure aussi où il parle de la nécessité que le souverain puisse prendre des choix éclairés lui-même. Lui-même doit être sans cesse conseillé par des personnes. On doit en fait délibérer dans les assemblées, puis lui proposer des opinions, et il ne pourra trancher que parmi celles-ci. Donc il n'y a pas en fait de pouvoir absolu et arbitraire.
Mais est-ce qu'il y a chez Spinoza l'idée d'un grand homme ou d'un homme providentiel ? Après tout, c'est l'assassinat des frères de Witt qui lui dicte la nécessité d'écrire le traité politique. C'est les frères de Witt qui faisaient régner ou qui permettaient le règne libéral à l'intérieur duquel Spinoza était relativement libre d'écrire ce qu'il écrivait. Est-ce qu'il y a chez Spinoza l'idée malgré tout que... bien sûr, ce sont les institutions qui réforment les individus et non pas l'inverse, mais qu'au sommet des institutions, il faudrait malgré tout des hommes d'exception.
Probablement, mais ça transparaît assez peu dans le traité politique, probablement du fait des conditions d'écriture. Simplement, il écrit quand même que, et ça va être dans l'idée du côté non normatif de Spinoza et surtout non moralisant de Spinoza, on ne rend pas les hommes responsables de leurs passions, on ne traite pas cela comme des vices, on ne les raille pas. Il y a cette idée que si le peuple se conduit mal, c'est que le souverain l'a mal conduit. Donc il y a quand même une certaine responsabilité du souverain à l'égard du peuple. C'est-à-dire, si les choses se passent mal, c'est soit que les institutions étaient mauvaises, soit que le souverain est parvenu, d'une façon ou d'une autre, à les transformer et à en faire quelque chose de mauvais. Donc là, on rejoint votre deuxième question sur le droit de résistance. Spinoza ne tranche pas véritablement. D'un côté, il dit qu'il n'y a pas dans les termes un droit de résistance, puisque, comme on le disait, ça supposerait que les lois entérinent le fait qu'elles puissent être transgressées. Donc ce ne serait simplement que provoquer la chute directe de l'État. Simplement, ce qu'il dit, c'est qu'on peut transgresser des lois à condition que ça aille dans le sens du salut de la multitude. C'est-à-dire, il faut que ça aille dans le sens du bien commun, en fait.
Au fond, il n'y a pas un droit de résistance, mais il y aurait un fait de résistance qui s'appliquerait ou qui se mettrait en œuvre à la seconde où les souverains iraient tout simplement contre les lois de la nature.
Oui, alors ça c'est tout à fait exact. Spinoza dit à ce sujet que un souverain cesse de fait d'être respectable au moment où il cesse d'être respectable. Donc ça veut dire en fait qu'il n'y a pas à proprement parler de droit théorique de résistance. Simplement, cela signifie que s'il se montre, Spinoza dit, ignoble dans ses comportements, de fait il sera méprisé par le peuple et de fait il finira par chuter. Donc en fait c'est comme s'il y avait quasiment, une punition dans les faits, c'est-à-dire de fait il va chuter s'il offense les croyances, s'il offense les pensées et donc s'il attire trop de passions négatives et trop de violence à son égard.
Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs.
On a entendu John Lennon tout à l'heure, maintenant c'est Bob Marley pour finir cette émission en votre compagnie, Julien Henry. Façon de dire aussi que l'irréalisme politique produit des chefs-d'œuvre musicaux.
Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, we've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom?
'cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs.
Voilà, les meilleures choses ont une fin, les meilleures choses, c'est-à-dire une chanson de Bob Marley et une conversation avec vous, Julien Henry, sur le traité politique. Merci infiniment.
Merci
d'être venu nous en parler. Il est 10h50 sur France Culture, les meilleures choses ont également un début, car on retrouve tout de suite le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. Les philosophes sont-ils des humains comme les autres ? Ce que cette question a de profondément énervant, c'est qu'elle présuppose, premièrement, qu'il y a des gens qui sont en effet comme les autres, et deuxièmement, que les philosophes ne sont pas vraiment des humains. Et pourtant, les philosophes meurent aussi, nous dit le livre du jour. Bonjour Simon Crichley.
Bonjour.
Les philosophes meurent aussi, c'est le titre que vous avez choisi de donner à votre livre qu'on trouve chez François Bourin, éditeur, en tout cas dans la traduction française, et dans lequel vous relatez la mort de près de 200 philosophes.
Mmh.
Alors c'est un livre à la fois drôle et intelligent, on peut le lire comme une anthologie d'auteurs à caractère anecdotique, qui s'assume comme tel, mais le livre est bien plus que ça, puisqu'il part de la mort des philosophes pour montrer comment le rapport des philosophes à leur propre mort nous dit quelque chose en réalité sur la philosophie elle-même et même sur l'histoire de la philosophie. Simon Crichley.
Oui, premièrement, la philosophie, c'est apprendre à mourir. Comme disaient Montaigne et Cicéron, donc il y a toute une tradition qui remonte à l'Antiquité. Par exemple, dans le Phédon de Socrate, Socrate dit que les philosophes sont ceux qui font profession de mourir. Donc, les philosophes sont les professionnels de mort, dans une certaine façon. Donc, dans le contexte pour ce livre, c'est, à mon avis, peut-être surtout aux États-Unis, dans le monde anglophone, il y a, pour nous, la mort est devenue une espèce de tabou. Oui? Nous vivons dans un déni de la mort. Donc, ce que j'essaie de faire tout d'abord, c'est d'utiliser cet idéal de la mort philosophique à partir de Socrate, Épicure et les autres exemples pour donner un peu une leçon sur le rapport entre la philosophie et la mort. Et puis, il y a les exemples qui sont plutôt idéaux, comme Socrate. Il meurt d'une façon très noble, mais il y a les autres exemples beaucoup plus humoristiques. Et j'y raconte quelques-uns dans le livre.
Alors, vous parlez d'idéal de la mort philosophique. Est-ce que pour vous, la façon dont certains philosophes sont morts représente véritablement un idéal ? Et en quel sens que ça veut dire que c'est comme un modèle qu'il faudrait idéalement mourir de cette façon-là ?
Oui, jusqu'à un certain point. Oui, on pourrait dire que, par exemple, chez Épicure, il a quelque chose qu'il appelle le quadruple remède, où le premier article de ce remède, c'est que la mort n'est rien. Donc, pour Épicure, et je suis un peu convaincu de cette position-là, pour Épicure, le problème, c'est que c'est notre soif de l'immortalité, notre désir pour l'immortalité. Et c'est ce désir-là qui nous asservit d'une certaine façon. Donc il y a aussi un mot de Montaigne qui est fascinant, qui a appris à mourir, a désappris à servir, dans une certaine façon. Donc la servitude consiste dans le déni de la mort. Donc la liberté, et ça c'est le paradoxe, apparemment le paradoxe, c'est que la liberté consiste dans l'affirmation de la mortalité. C'est-à-dire de la nécessité. Donc, et on trouve partout dans l'histoire de la philosophie, mais surtout dans l'Antiquité, ce rapport étroit entre la figure du philosophe et la mort. Et donc, la première intention de ce livre, c'est de faire un peu un souvenir de ça, oui, de défendre ça. Mais il y a aussi des problèmes avec ces positions-là. C'est pas finalement ma mort, mon propre ma propre mort qui est peut-être important. C'est mon rapport à la mort des autres.
C'est ce que j'allais vous dire. Le vrai problème n'est pas tant notre propre mort,
oui.
Puisque de toute façon, comme le dit Épicure dans la lettre à Ménécée, vous l'avez cité tout à l'heure, rien ne sert d'avoir peur de la mort, puisque tant que je suis vivant, je ne suis pas mort, je ne sais pas ce que c'est. Et quand je serai mort, je ne serai plus, donc je ne pourrai pas avoir mort. Donc il fait son sort comme ça à la question de la mort en tant que telle. Mais le vrai problème, c'est plutôt la mort des proches. Et comment, dans ce cas, est-ce que les exemples que vous prenez des philosophes dont vous relatez la mort peuvent être là de nouveau, servir d'idéal, comme ce que vous dites tout à l'heure? Est-ce que ces philosophes-là nous apprennent à savoir comment rester tranquille et dans la joie face à la mort de ceux que nous aimons?
Pour moi, c'est une question que, finalement, dans cet idéal de la mort philosophique, il y a quelque chose peut-être d'égoïste. Oui, quelque chose d'égoïste. Je pense, par exemple, dans l'exemple de Socrate ou d'Épicure, il veut mourir tranquillement face aux autres et il raconte des histoires sur l'immortalité de l'âme pour soulager ses amis. Mais je pense que la vraie question, la question que j'ai aboutie dans le livre, mais qui n'a vraiment résolu et sur laquelle je travaille actuellement, c'est la question de notre rapport à la mort des autres et la question du deuil, ou la peine. Et pour approcher cette question, il y a une autre tradition, la tradition religieuse, surtout du christianisme. Il y a un article dans le livre sur Saint Augustin, où Saint Augustin parle de la mort de sa mère, de son fils et de son ami. Et peut-être il y a dans la tradition religieuse quelque chose de plus profond par rapport à cette question de deuil. Parce que le deuil, c'est quelque chose qui me déchire, qui me déchire en Dieu. En deux.
Bon, lapsus.
Et l'exemple, il n'y a pas une thèse dans le livre. Il y a presque 200 exemples.
Il n'y a pas de thèse. Vous écrivez cependant, pour moi, là c'est vous qui écrivez, c'est seulement dans la peine que nous devenons vraiment nous-mêmes.
Oui, oui.
Comme si c'était à travers l'expérience du deuil que se révélait notre moi véritable.
Oui, oui, oui. Parce qu'il y a... Peut-être qu'il y a quelque chose dans l'expérience de soi qui est un soi essentiellement divisé. Et c'est, par exemple, il y a l'exemple dans le livre de Derrida. Jacques Derrida donne un entretien avec Le Monde quelques mois avant son décès. Et il a dit que je reste inéducable par rapport à la sagesse de mourir philosophiquement. Il refusait ça, exactement. Et bon, ce que j'essaie de montrer dans le livre, donc c'est les façons plurielles de mourir parmi les philosophes. Quelquefois, ça correspond à cet idéal, quelquefois, c'est une contradiction.
Merci beaucoup. Donc, je rappelle le titre, c'est « Les philosophes meurent aussi ». On trouve ça chez François Bourin, éditeur.
Merci à tous et merci Adèle. C'est la fin des Nouveaux Chemins pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite et la fin de cette semaine sur Spinoza. On parlera demain du court traité, un texte de jeunesse, comme on dit. Enfin, c'est une jeunesse de trentenaire. Un texte dont la rédaction est contemporaine. On ne sait pas trop si c'était avant ou après le traité de la réforme de l'entendement. Quoi qu'il en soit, cette émission, l'émission d'aujourd'hui, comme toutes les autres, vous pouvez la retrouver sur Internet, sur notre site internet où vous attendent le téléchargement des émissions de la semaine, l'écoute en ligne des émissions du mois, ainsi qu'une bibliographie.